Eh bien, bonjour à tous. Alors, bonne année à tout le monde, parce que j'étais pas là la semaine dernière. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et merci Guy de nous avoir amenés dans cette réflexion ce matin. Tu nous as encouragés avec les versets de Philippiens 3, qui comparent la vie chrétienne, en fait, à une course. Et on va continuer un peu dans cette thématique, si vous le voulez bien, ce matin. Mais on va prier avant tout. Seigneur notre Dieu, c'est dans ton nom qu'on est tous réunis ce matin. C'est toi qui es le centre de toute chose, qui est le commencement et la fin. Et c'est à toi que nous devons notre origine, notre salut, notre espérance, notre destinée éternelle. Seigneur, veuille bénir maintenant ta parole. Veuille la faire éclater de joie, que nous puissions vraiment comprendre tout ce qu'il y a dedans, cette richesse que tu nous as léguée. Seigneur, c'est un cadeau que tu as fait à l'humanité de te révéler. Toi, le Dieu Tout-Puissant, et Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre cette parole. Donne-moi aussi la sagesse de ne pas dire un mot de trop, de parler vraiment de ta part, Seigneur, pour que mes frères et sœurs, ce matin et moi-même, nous soyons encouragés, éclairés, stimulés à toujours plus te louer, toujours plus te servir. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Voilà, donc vie chrétienne est une course, et si on pousse la comparaison, ça serait plutôt de l'ordre, plutôt que du sprint, c'est plutôt de l'ordre du marathon, vous êtes d'accord ? À la seule différence par rapport au marathon olympique, c'est qu'on ne parle pas de performance, et la longueur diffère pour chacun. Un marathon, c'est 42, quelque chose, mais pour chacun, le marathon a une longueur différente, qui est fixé par Dieu, mais qu'on ne connaît pas. Voilà. Et il n'est plus question là de performance, hein, courir sans s'arrêter, faire moins de 2 heures, mais c'est une question de ligne d'arrivée. Et avec ces nouveaux objectifs que Dieu nous fixe par rapport à la course chrétienne, il est important d'avoir un bon rythme et savoir faire des stops, hein, puisque ce n'est plus une question de performance, mais de ligne d'arrivée. Il faut savoir faire dans la vie des stops. Et je pense qu'une transition d'année, une transition professionnelle, une transition de décennie, c'est une occasion de s'arrêter et de faire des stops. D'ailleurs, Dieu, dans sa sagesse, lorsqu'il a formé son peuple d'Israël, leur a donné des stops, hein, sous la forme de fêtes. C'est des moments où ils arrêtaient le travail, il y avait le sabbat, il y avait toutes ces fêtes lévitiques, hein, dont 3 fêtes principales, bien sûr, où ils se réunissaient tous à Jérusalem. Et pourquoi Dieu avait fait ça ? Parce qu'il savait dans sa sagesse que la course est longue, que la vie est difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, là ? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord que la vie est dure ? Personne ne lève la main ? Ben moi non plus. Donc la vie est dure, mais heureusement dans la parole, nous avons des passages qui nous aident à surmonter la dureté de la vie. Et j'ai choisi ce matin un psaume ultra connu, c'est le plus vieux des psaumes, qui nous donne le point de vue réaliste d'un homme qui sait de quoi il parle. L'auteur de ce psaume sait de quoi il parle parce qu'il a vécu le fait que la vie était dure. Et on va voir comment un homme très âgé, il est probablement très âgé lorsqu'il rédige ce psaume, un homme qui a quasiment achevé sa course, qui a quasiment aussi accompli sa mission, donc un homme qui est légitime pour nous enseigner. Vous savez, aujourd'hui, on vit à l'ère du jeunisme et du dégagisme. Hein ? Tout se rajeunit aujourd'hui. On n'a jamais eu des premiers ministres aussi jeunes, même si là on en a un peu plus vieux. Mais en politique, c'est très jeune. Même dans les églises chrétiennes, c'est très jeune. Les groupes d'anciens sont très jeunes. Et parfois, voilà, il faut la force de la jeunesse, hein, comme il était écrit ce matin dans le verset. Il faut la force de la jeunesse et parfois la sagesse. C'était dans la lecture du jour, la lecture du proverbe, pour ceux qui ont lu. La force de la jeunesse et la sagesse de la vieillesse a bien mélangé, bien mixé tout ça. Cet homme, vous le connaissez, on va en dire 2 mots tout à l'heure. Et on verra que ce psaume, finalement, va nous donner, je ne vais pas dire 6 recettes du bonheur, mais va nous amener à faire 6 requêtes au Seigneur, donc va nous rendre actifs. Vous savez, les recettes du bonheur, les recettes à 2 balles qu'on trouve sur Internet, fais ci, fais ça, vous voyez, ça ne va pas loin en général. Mais quand c'est la parole de Dieu, on va voir aujourd'hui 6 requêtes que nous pouvons chacun faire au Seigneur en ce début d'année, qui sont des requêtes un peu inhabituelles. Vous savez, quand on fait une réunion de prière, je caricature, mais on a un peu notre liste de courses, quoi. Seigneur, bénis la tante Sarah qui a un problème au poumon, bénis un tel qui va passer ses examens. Vous voyez, on a notre liste de courses et ce n'est pas interdit. Dieu nous dit qu'il faut amener des requêtes et des intercessions. Mais de temps en temps, et quand on lit l'apôtre Paul, quand il prie pour les chrétiens, il demande des choses un peu inhabituelles. Par exemple, il va prier pour les Philippiens et il va leur demander « Je prie pour que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité afin que vous sachiez discerner ce qui est important. » Je vous cite de mémoire Philippiens 1, verset 8 ou 9. Vous voyez, donc parfois, savoir demander, et ça c'est des idées pour les réunions de prière, là cette semaine c'est dans les quartiers, voilà, demander parfois des choses inhabituelles à Dieu et Dieu va honorer tout ça. Alors, la télécommande, elle est là, on va avancer. Alors, ce psaume, bien entendu, c'est le psaume 90, je vous invite à l'ouvrir parce qu'on va le lire en entier, je ne l'ai pas affiché, comme ça nous amène aussi à prendre nos Bibles. Alors, en fonction des versions que vous avez, moi je suis fidèle à ma vieille version Colombe, là, depuis 30 et quelques années. Je la connais tellement bien que j'ai du mal à passer aux autres. Mais, bon, je lis quand même la Nouvelle Français Courant, le Summer, mais j'aime bien ma Colombe parce que, bon, voilà. Psaume 90, donc prière de Moïse, c'est lui l'auteur de ce psaume, c'est le seul psaume qu'il a écrit d'ailleurs. Homme de Dieu, alors c'est, oui, bien sûr c'est un homme proche de Dieu, mais homme de Dieu ça veut dire prophète en gros, hein, donc Moïse était un prophète. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, oui, le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante, tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère. Cela passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous tous, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Alors un psaume donc de Moïse, c'est un peu inhabituel, hein, on pense souvent au psaume de David. Alors où en est Moïse au stade où il écrit? Alors c'est pas Moïse, rassurez-vous, hein. C'est pas le vrai, vous connaissez... Cette image extraite du biopic de Cécile B2000, hein, qui date un peu déjà, je n'étais même pas né. Hein, vous voyez, donc. Alors Moïse, il a eu 3 stades dans sa vie. C'est important de comprendre où est-ce qu'il en est quand il écrit ça. Hein. Premier stade, vous voyez, il a été prince d'Égypte pendant 40 ans, hein, c'est 3 fois 40. Ensuite, il a été berger dans le désert, il a entendu des bêlements de moutons et des souffles, des buissons qui volaient pendant 40 ans. Et enfin, il a accédé à sa mission de vie, qui est d'être conducteur d'un peuple immensément nombreux et rebelle. Et à chacun de ces stades, Moïse a appris des choses. Comme nous, d'ailleurs, on a eu des phases dans notre vie. À chaque phase, on apprend des choses. Alors Moïse, en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a appris la sagesse des Égyptiens et l'écriture. Ça tombe bien parce qu'on pense que dans cette époque-là, c'est là où vraiment est née l'écriture. Avant, on écrivait en cunéiforme sur des tablettes. Et l'écriture est vraiment née à ce moment-là. Et il en avait besoin. Pourquoi il en avait besoin ? D'apprendre l'écriture. Pour ?